Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lupenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Boris Boucher. Bonjour Boris.
Bonjour.
Bienvenue dans la tête d'anarchie. Boris, vous êtes architecte, vous dirigez l'agence d'architecture qui s'appelle Boris Boucher Architecte et qui existe depuis 2007, c'est bien ça?
Depuis 2007, oui.
Ok, on va démarrer en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte?
Ok, alors je suis content d'être là, c'est super, toujours intéressant de parler de mon parcours. Donc j'ai fait un bac scientifique dans le territoire du parc naturel régional du Livradois-Forez dans lequel j'étais né. Voilà, à l'issue de ça, je suis allé à l'école d'archi de Lyon. J'ai commencé un double cursus, archi ingé, ça pendant 2 ans. Et puis voilà, je me suis, parce que bon, j'étais content de faire les, ça faisait longtemps que je voulais être architecte depuis que j'étais au collège, quoi. Mais à l'issue du bac, j'avais un peu de mal à renoncer à faire des maths. Donc, j'ai fait ce double cursus. Et puis en fait, bizarrement, je me suis aperçu que ce que j'aimais dans les maths, c'était plus du côté du projet d'architecture que du côté des questions de calcul d'ingénierie. Donc j'ai finalement arrêté ce double cursus et je suis venu à Clermont. Dans ma région, quoi, pour faire les quatre dernières années. J'ai débarqué dans une école qui à ce moment-là était une école en ébullition, une école incroyable qui a formé beaucoup d'architectes qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène. Donc c'était super intéressant. Bon, je sais pas trop dire ce qui m'a donné envie. Je viens plutôt d'une famille où mon grand-père avait une scierie. Donc j'étais un peu dans cet univers plutôt du bois. Mes parents vendaient des menuiseries en bois. Mais c'est bizarre parce que quand je suis rentré à l'école d'archi, j'avais plutôt une envie de déco, quoi. C'est-à-dire, je regardais les magazines de déco, j'avais envie de faire des petits pavillons dans la campagne, quoi. Et en fait, l'école m'a transformé, quoi. Et je suis ressorti avec plus du tout la même chose, plutôt des envies de grand territoire, de grande échelle. Donc c'est finalement l'idée que je me faisais, puis ce que l'école m'a apporté, c'était énorme, quoi. Voilà.
Parcours. On va parler du début de votre agence. Pouvez-vous nous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture?
Oui. Alors finalement, ça continue. C'est ce que je viens de dire. Du coup, après l'école, je suis allé travailler chez un de mes profs dans l'agence Aubras, donc de Frédéric Bonnet. C'est quand je suis rentré dans l'agence, j'étais le deuxième salarié. Quand je suis reparti, on était 15. Donc, pareil, que c'était un moment assez intéressant, quoi, parce qu'il y a eu beaucoup de développement de cette agence. On s'entendait très bien avec Frédéric et Marc avant que j'y aille, et puis on s'entend toujours très bien aujourd'hui. Ça a été une super aventure. Il y a plein de copains que j'ai encore aujourd'hui qui sont passés par là. Et à la fin, c'était le moment de la crise de 2007-2008, là, et en fait, les projets que je suivais se sont arrêtés un peu brutalement. Et puis, dans le même temps, avec 3 copains de l'agence, Yvan Kotnikov, Jérôme Lafont et Thomas Noyer, on a gagné Europan. Donc c'était un peu le point déclencheur. Et puis, pareil, un peu par hasard, j'avais répondu à un appel d'offres public avec Simon Tessou, la première fois qu'on se rencontrait pour un concours de maison de retraite dans mon village à Armand. Et par miracle absolu, on a été pris. Tout ça a précipité le démarrage de l'agence, alors que c'est jamais évident de commencer, quoi. Et puis, j'ai pas mal travaillé à la suite de ça dans le territoire de mon enfance, que le territoire de Forez, dans des petits villages, avec quelques projets intéressants. Et on a eu des prix un peu successivement pour ces projets. Le prix Écoquartier, puis ensuite le prix de la première robe du quart d'argent, puis le palmarès jeune urbaniste, les AJAP, et encore plein d'autres prix à la suite. Donc ça, voilà, c'est, je dis ça parce que ça a beaucoup compté finalement. Moi, j'étais pas quelqu'un qui avait tellement de réseau, je connaissais pas trop ce milieu, et donc en fait, ça a été aussi une stratégie de valoriser les projets qu'on faisait par en répondant à des prix, voilà. Et ça nous a donné, on va lire la suite, c'est-à-dire un petit peu de travail par la suite.
Merci pour l'exception. Et du coup, quand vous aviez créé au début avec vos collègues, c'était directement l'agence Boris Boucher ou c'était
Non, on avait appelé ça c'était un peu le collectif Milieu. C'était un truc qu'on a fait à l'époque. Ça a pas on n'a pas fait d'autres trucs ensemble. Je veux dire, à part enseigner ensemble, continuer de discuter. Enfin, on se connaît encore bien. On est encore. Jérôme Thomas à l'école d'archi clairement avec moi. Yvan, lui, il a monté son agence, s'appelle Atelier Georges. On travaille encore ensemble. On vient de gagner un truc ensemble d'ailleurs. Donc voilà, ça n'a pas fabriqué un collectif au sens fort, mais c'était intéressant.
Et vous continuez de collaborer régulièrement ensemble.
On dit au moins on discute. Et,
cool.
Et après, j'appartiens aussi à un autre collectif qui est le collectif AJAP 14. Quand on a eu les AJAP, on s'est regroupé cette promotion d'AJAP, on s'est vachement bien entendu, on s'est toujours hyper bien. Et du coup, ça nous a permis de, là pour le coup, d'abord de faire de répondre à cet appel d'offres pour être les commissaires de Pavillon français à Venise. Voilà, c'était une super aventure. Et puis, depuis, on fait pas mal de collaboration entre nous. Deux par deux, trois, bon, surtout deux par deux, quoi, voilà. Donc, nous, on a fait un projet, par exemple, de l'école de musique en pierre avec Studio 1984. On fait un projet à Nantes avec l'agence de Boris Neloclas. Voilà, on fait des concours en ce moment avec Julien Boisdeau. Enfin, bref, voilà, puis il y a les autres aussi qui font des collaborations entre eux. Donc ça, c'est un collectif qui est assez, intéressant encore et assez actif, quoi, en dehors de l'agence.
Génial. Super de savoir tout ça. Si on revenait à l'architecture, comment décririez-vous votre philosophie en matière d'architecture?
Ouais, c'est une question qui est pas évidente de se regarder soi-même et tout ça. Oui. Bon, disons que moi j'appartiens quand même globalement à une généalogie qui est celle donc de voilà Frédéric Bonnet et puis avant lui Patrick Berger, donc plutôt les architectes qui travaillent Patrick Berger disait la notion de récit, quoi, c'est-à-dire qu'en fait le projet est un objet culturel qui se construit autour d'une histoire, quoi, qu'on fabrique. Voilà, on regarde les enjeux techniques, environnementaux, culturels, historiques. Voilà, mais le projet est avant tout un récit, donc ça fabrique des architectures qui sont plutôt des architectures cultivées. Je dis pas que les architectes sont cultivés, mais en tout cas, c'est le. Voilà, on va dire que l'idée, c'est de fabriquer des architectures qui s'inscrivent dans une histoire, quoi, au sens fort. Bon, ça c'est la première influence. La deuxième influence c'est celle de Ropan et puis de l'école clermontoise qui est le refus de la distinction entre projet architectural et projet urbain, c'est-à-dire le projet est un projet quelle que soit l'échelle, que ce soit tout petit ou très gros, et que même sur un tout petit projet on peut s'intéresser à des questions territoriales et inversement, cette notion d'entrelacement des échelles là, qui a été théorisée par Frédéric Bonnet. Donc voilà, ça fait partie plutôt des effectivement mes philosophies de manière de travailler. Et aujourd'hui, disons que les recherches qui émaillent les différents sites de conférences là, que j'ai donné depuis que l'agence existe sont passées par ces notions de milieu, l'idée de qu'on appartient toujours, on est toujours un peu entre les pairs et les maîtres, c'est-à-dire que on est proche des territoires nous ont vu grandir, et à la fois, on est proche des maîtres, des grands maîtres modernes, notre discipline, quoi, voilà. Aujourd'hui, la grande philosophie de l'agence, c'est plutôt logique de réparation, quoi, on s'aperçoit qu'on hérite de plus en plus de situations abîmées, cassées, mal fichues, et que donc on n'est plus dans des fabrications d'œuvres comme ça, in abstracto. Il pouvait être une sorte de rêve, quoi, quand j'ai commencé ma vie d'architecte, quoi, c'est-à-dire faire un bâtiment neuf, quoi, c'était ça qu'il fallait faire. Et la réhabilitation, c'était horrible. Et en fait, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Voilà. C'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que construire un bâtiment neuf, c'est toujours intéressant, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va plus là-dedans, et on sent qu'on n'en fera plus des bâtiments neufs. Et donc, on est beaucoup plus dans des logiques, voilà, de réparation, de territoire, de bâtiments existants. Voilà. C'est ça aujourd'hui notre intérêt.
J'aime bien ce terme de réparation, souvent on dit réhabilitation.
Et c'est ça.
J'aime bien ce terme.
Ouais, ouais, le cycle de conférence que je donne, il s'appelle éthique de la transformation, logique de réparation. Donc, pour dire qu'en gros, on est dans une situation où on doit transformer, comprendre qu'il faut transformer. Ça veut dire un truc, ça veut dire que par exemple, sur la question esthétique, ça bouleverse complètement ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique où on va faire un objet de design parfaitement, voilà, même si ça nous intéresse de faire ça. Mais en fait, c'est plus ça, et donc on va être obligé d'accepter finalement des esthétiques qui sont héritées, quoi. Je sais pas, un bâtiment des années 80 qui peut être assez moche en vrai, voilà, et qui finalement devient quelque chose de, allez, de beau, je vais dire, parce que tout simplement il existe et donc il consomme pas de carbone, quoi. Voilà. Et effectivement, devient du coup une logique de réparation, parce qu'en fait, on voit qu'on hérite de situations qui sont mal fichues. Enfin, je te donne un exemple tout simple, par exemple. On fait des projets de taille très différente à l'agence, là, puis on va attaquer le projet d'une maison pour des gens que je connais, des copains. C'est une maison sur plusieurs étages dans une pente en ville, et en fait, ils ont acheté cette maison il y a 10 ans, ils ont peut-être transporté des réparations en mettant les chambres et le salon en inversant les logiques de chambre et de salon. Et en fait, ils n'avaient pas bien vu dans cette maison, et en discutant avec eux, en fait, j'aurais fait dire qu'en fait, c'était trompé là-dessus. Et donc voilà, en fait, dans une logique de réparation, parce qu'on ne va pas tout changer, quoi. Ça, tant pis, ils sont trompés il y a 10 ans, ils sont trompés. Donc il va falloir trouver des manières de faire pour amener de la lumière malgré tout. Voilà. Donc c'est ça la logique de réparation, quoi.
Merci. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à cœur?
Non, c'est difficile, tous, bien sûr. En l'agence, on réalise pas des tonnes de projets. Enfin, je veux dire, par rapport, vu qu'on est quand même peu nombreux et tout, on fait pas des tonnes. On pense plein qui échouent, on perd plein de concours, on perd la plupart des concours, en réalité. Mais il y a pas un projet, je dirais pas qu'il y a des projets, voilà, un projet que je préfère, quoi, par exemple, plutôt des époques, il y a des projets qui sont un peu charnières, quoi. Bon, bien sûr, le premier, voilà, la maison de retraite qu'on a fait avec Simon, puis le bâtiment en terre crue, que j'ai fait dans le village d'à côté juste après, qui est aussi un peu écrit ce qu'on faisait. Ben, il était charnière, même si aujourd'hui je trouve plein de défauts, quoi, voilà. Et puis, c'est vrai qu'on, c'est plutôt des types de projets. Et c'est vrai que les projets que je préfère, c'est les projets processus, c'est-à-dire les projets où on va être vraiment en charge d'une transformation sur le temps long et où on va pouvoir exercer à la fois nos métiers d'urbaniste, de programmation, d'architecte, de technicien, etc. Et voilà, ce projet de là qu'on a vu un peu partout ces derniers temps de Plaza, voilà, on a travaillé, donc voilà, ça fait 10 ans quasiment qu'on travaille sur transformation progressive d'un centre médiéval par des petites touches. Voilà, donc c'est ce genre de projet qui aujourd'hui passionne le plus, quoi, là où on agit sur des territoires en difficulté et voilà, et nos actions ont des effets bénéfiques.
Ouais, super, entendons, à 10 ans c'est rare, des projets sur 10 ans.
Oui, c'est ça.
Quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour remporter des projets, des concours, selon vous?
Alors, une agence au sens large, je dirais que c'est vrai qu'on est quand même dans un univers un professionnel qui s'est dégradé, quoi, hein, globalement. Je le dis à moi, l'échelle de 15 ans, 20 ans d'expérience, mais c'est toujours un peu, c'est pas terrible de dire c'était mieux avant, mais on voit bien qu'il y a eu une génération d'architectes où la commande publique est très présente, et finalement les architectes faisant leur choix, ceux qui s'orientaient vers la commande publique, finalement arrivaient plutôt à bien en vivre. Certainement pas dans un système de concurrence accrue, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que le métier est magnifique, qu'on reste quand même en France globalement protégé par la loi, et à dire qu'il y a un effet de concurrence qui fait que on a du mal à, globalement du mal à être retenu sur des projets publics. Et je dis ça avec toute la conscience du fait que notre agence, on est plutôt du côté des chanceux. Mais même quand je vois finalement les références dont on dispose, c'est-à-dire le nombre de projets qu'on a fait, la notoriété qu'on a, etc., c'est difficile. Donc je pense toujours à ceux qui n'ont pas cette chance et qui, pour autant, sont extrêmement compétents. Plein d'agences, des gens extrêmement compétents. qui voilà, n'ont pas eu la chance d'avoir gagné un concours à un moment et qui n'arrivent pas. Et voilà, passent leur temps à faire des petits projets. Et des fois, d'ailleurs, ils font très bien, mais du coup, ça leur rend la vie difficile parce que les petits projets sont peu rentables. Voilà. Donc, c'est vrai que cette difficulté, c'est ça, c'est d'abord d'être retenu par des concours. Et puis après, je dirais qu'une fois qu'on arrive à peu près à cette étape-là, la difficulté, c'est de les gagner. J'ai pas fait de stats, mais on gagne peut-être un concours, deux concours sur 10, quoi. Voilà, et sachant qu'on en fait, pas non plus des tonnes. Donc en fait, on n'en gagne pas beaucoup. Voilà. Et on a toujours du mal à l'expliquer, mais c'est vrai que on fait plutôt partie d'un type d'architecte qui analyse le programme de manière critique, qui répond donc pas toujours exactement à ce qu'on a, parce que le maître d'ouvrage semble attendre, parce que voilà, il nous semble qu'on a, en tant que professionnel, on doit exercer un peu de devoir de conseil. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent face à des concurrents qui vont répondre strictement au programme sans prendre trop de risques, et parfois c'est une bonne chose, parfois ça se discute plus, et c'est difficile. On évoquait ensemble tous les deux le projet de Roubaix là sur lequel on avait collaboré. C'est rigolo, c'est un projet où on était deuxième, donc notre projet a été très bien accueilli, on n'a pas gagné. Et si j'explique pourquoi, il y avait une erreur dans le programme, c'est que c'est un bâtiment existant avec une volonté d'extension, et en fait il restait quasiment dans le programme, il restait près de la moitié des surfaces des bâtiments existants, très beau bâtiment, très belle école en briques du 19e, ouais, qui n'était pas occupé à la fin du projet. C'est-à-dire, on faisait des extensions nombreuses, alors que toute une part n'était pas exploitée. Donc, en fait, nous, on a fait un projet qui permettait d'exploiter tout ce qui était existant. Ça paraissait absolument évident. Voilà. Et ça a été plutôt bien accueilli, y compris par les techniciens. Mais c'est vrai que d'un point de vue de l'image qu'on avait renvoyée, de la complexité aussi que ça générait dans l'organisation, les élus, et on peut le comprendre, ont décidé de se dire, non, on va plutôt faire notre programme, c'est-à-dire refaire, voilà, grosse extension tout de suite, et puis après on verra. Bon, voilà ce genre de situation où on sait qu'on fait ça, on prend un risque, et on a forte chance de perdre. Et bon, on fait quand même parce que, ouais, on pense que c'est mieux.
Ouais, et puis là, c'est vrai que la deuxième place, c'est vraiment facile.
C'est ça.
Donc dans le podcast, on aime bien parler d'architecture, mais aussi d'image. Est-ce que l'image, la perspective est importante pour votre agence?
Ouais, c'est super important. C'est sûr qu'aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde de communication, et donc l'image, la perspective, la photo, le dessin, ça compte beaucoup pour parler de nos projets, pour expliquer nos projets de manière intelligible. En fait, c'est aussi ça, quand je parlais tout à l'heure de récit, c'est aussi être capable d'expliquer toute la complexité d'un projet en quelques lignes, en quelques mots, en quelques images. Quel que soit le média, il y a une limite, quoi. On a une limite de taille, une limite de temps, etc. Mais au-delà de ça, l'image, c'est bien plus que ça pour nous. C'est-à-dire que, il faut comprendre que le projet architecture, c'est un objet abstrait. C'est comme un texte, une musique, un film. C'est un objet abstrait, et puis qui donne rien, quoi. C'est-à-dire, en gros, on s'abrite pas avec un projet architecture, on va donner des cours dans un projet d'architecture. Voilà. Donc il y a cette distinction entre le projet et le bâtiment, cet écart qui en fait notre discipline, qui est fondamental. Et il faut comprendre, c'est que le projet d'architecture, ça dure longtemps. C'est-à-dire, ça dure entre 2 ans et 10 ans, quoi, selon les projets. Et du coup, on a besoin de se construire un imaginaire pendant ce temps-là qui permet d'expliquer le projet à ceux qui sont avec nous, bien sûr, à nos clients, nos bureaux d'études. Mais en fait, plus que ça, ça nous permet aussi de nous expliquer le projet à nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire de se rendre compte de ce que c'est. Pas seulement en faisant n'importe quoi, une 3D qui dit, c'est plutôt vert, plutôt jaune, ça, plus joli. Mais vraiment, dans l'idée de se fabriquer un imaginaire. C'est pour ça qu'en fait, on s'éloigne beaucoup et de plus en plus, nous, des rendus photoréalistes purs, même si on aime bien que ça soit précis, qu'on voit bien et tout. Mais on va travailler sur des images qui sont des images qui racontent un univers. Qui ont un grain, qui rappellent une culture. Parce que ça, en fait, ça permet de fabriquer un univers qui a un rapport directement avec l'objet. C'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que l'objet intellectuel abstrait qui est le projet, tout d'un coup, se mêle à l'objet concret qui est celui qu'on va construire. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est fondamental.
Ouais, très intéressant comme approche. Donc, on va continuer de parler de l'image. Est-ce que l'image vous aide également dans le développement d'un projet avec vos clients?
Oui, oui, c'est sûr. On le fait beaucoup. Voilà, pareil, il faut choisir la bonne image, le bon style, le bon moment pour la donner aussi. Hein. C'est vrai que l'image peut être, elle peut être convaincante, c'est évident. Je pense que ça, tout le monde peut dire ça et tout le monde s'en sert. Et puis, mais je dirais qu'elle pourrait être aussi l'inverse. C'est-à-dire, pas au sens où elle pourrait être, excluante, quoi. Enfin, de dire que, bon, on fait une image ratée, le maître d'ouvrage dit non, ça me plaît pas. Puis, bon, voilà, à la limite, on en refait une, c'est pas grave. C'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt qu'on peut faire une image qui, à un moment, va bloquer une situation de projet en disant, ah oui, c'est bien. Et puis après, tout le monde est bloqué là-dessus, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Et voilà, donc, faut trouver le bon moment pour la faire. Par exemple, on fait régulièrement, même si on fait pas beaucoup de projets pour des maisons individuelles, souvent des réhabilitations. Et maintenant, on fait quasiment pas d'image, au début, pendant très longtemps. Bon, par contre, on fait des petites axonométries en noir et blanc, au trait, qui vont expliquer les configurations. Parce qu'en fait, souvent les gens, quand ils font leur maison, ils sont focalisés sur la déco, la couleur, le bois, je sais pas quoi. Et ils viennent aussi nous voir pour ça, hein. Et en fait, c'est des conneries. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, c'est pas ça, c'est des organisations. Et voilà, les passages d'une pièce à l'autre, les hauteurs, les vues, les etc. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser les images, la bonne escient, pour, être, expliqué au bon moment. C'est pareil quand on fait un pro, hein, les moments où on va fabriquer des images pour les entreprises, pour qu'elles construisent. Pendant longtemps, on travaillait en 2D, on s'est mis beaucoup à travailler en 3D. Mais on fait pas du BIM. Genre une image où les gens tournent dedans,
ouais.
Des images fixes, voilà, pour aussi permettre à quiconque et une entreprise en particulier de se fabriquer lui-même un imaginaire. Enfin, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait ça compte vachement.
Ouais, c'est bien que tu expliques de construire un imaginaire, c'est hyper intéressant. Quand on parle de cet imaginaire, est-ce que c'est la même fonction, est-ce que c'est aussi essentiel pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme de la mairie?
Alors là, je dirais que c'est un peu un autre univers. Mais quand même, c'est sûr que, enfin, il est arrivé assez souvent que, bon, ben, on s'applique, hein, c'est-à-dire, on fait quand même, globalement, même quand on fait un permis de construire, moi, j'aime bien que, voilà, les coupes soient belles, que le plan soit beau, que la perce soit belle. Bon, mais, c'est arrivé plusieurs fois que les gens disent, le projet est super beau, et quelque part, ils ont envie de le défendre. Sur des choses qui peuvent paraître peut-être un peu limites, un petit bout de toiture qui n'est peut-être pas trop autorisé, qui pourrait discuter dans le règlement, enfin voilà. Et donc, en fait, c'est sûr que, voilà, c'est toujours pareil, quoi. Ça fabrique effectivement une sorte d'adhésion, de compréhension générale qui donne envie aux gens qui sont, voilà, en situation d'instruire, d'être plutôt dans le favorable que dans le défavorable.
Ouais, parce que c'est un ensemble qui regarde et si l'ensemble leur plaît.
Exactement.
C'est hyper intéressant. Si on revient un peu plus à l'architecture et aux architectes, y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré?
Ah, ouais, bon, alors, y en a plein, évidemment.
J'imagine.
Bon, c'est sûr que comme tout, voilà. En plus, moi, j'enseigne depuis, ça fait 17 ans que j'enseigne, que je construis des cours depuis, voilà, tout ce temps-là. Okay. Donc, quelque part, c'est un peu mon métier, d'avoir des références et d'aimer des architectes. Bon, si je resterai un peu sur mon cas personnel, on va dire que dans les maîtres modernes, évidemment tous les maîtres modernes, mais en plutôt, voilà, plutôt du côté de d'Alvar Aalto et de Louis Kahn, du côté de Mies van der Rohe, voilà, pour notamment en particulier pour les questions de Louis Kahn, pour les questions de rigueur du plan, extrêmement précis de l'organisation d'architecture, et puis Alvar Aalto, voilà, pour l'inverse, c'est-à-dire du côté à la fois lyrique et puis évidemment son très fort rapport à son territoire, la Finlande. Voilà, après, puis même on pourrait juste revenir avant, beaucoup de choses qui m'intéressent dans l'architecture se fondent sur ce qu'a écrit Viollet-le-Duc aussi. Voilà, donc plutôt le cas, tout ce qui est les écrits théoriques de Viollet-le-Duc. Voilà, et puis plus récemment, pareil, il y en aurait plein, mais voilà, j'aime bien cet architecte qui s'appelle Slimane Radić, qui je trouve vraiment inventif, ou des architectes comme Ensemble Studio, enfin voilà, tous ces architectes qui vont travailler plutôt sur les logiques de processus, qui du coup vont réinventer des logiques de forme, des logiques esthétiques à partir plutôt de logiques de processus. Voilà. Ensemble Studio, c'est des architectes à qui, par exemple, on construit une maison en béton avec des bottes à partir d'un tas de terre et de paille.
Ah ouais.
Voilà, donc on aime bien travailler sur, voilà, sur ces sujets un peu alternatifs, qui sont liés à comment la manière de fabriquer esthétique.
Merci hein, beaucoup. Hein. Parce que toi, moi, je sais que j'ai découvert de nouveaux architectes. Merci. Quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus?
Bon, voilà, c'est celle-là. c'est plutôt ça que j'aime dire. C'est-à-dire, bon, évidemment, quand j'ai commencé à enseigner avec Frédéric Bonnet, on a construit un cours qui s'appelle matière brute, matière transformée, que je donne depuis longtemps, là, qui a beaucoup évolué depuis maintenant 17 ans, 18 ans, mais qui a cette idée que la matière, les formes de plaisir architecture, voilà, qui est une idée qui se défend, mais qui n'est pas partagée par tout le monde, hein, qui quand même s'oppose à certaines grandes tendances de l'architecture à une certaine époque. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a trouvé énormément d'actualité ces dernières années, notamment, évidemment, dans l'injonction que la société nous fait d'être plus économe en carbone. Donc, effectivement, le sujet de la matière est un sujet de recherche hyper important à l'agence. On a construit ce bâtiment en terre crue. Le premier bâtiment qu'on a construit, c'est un bâtiment en terre crue en bois. Et voilà, on continue de travailler sur ces recherches de matière, mais pas seulement sur le plan technique ou réglementaire, même si c'est en partie du truc, mais toujours dans cette logique de récit, c'est-à-dire une logique culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça donne? C'est pas juste combien ça consomme pas de carbone. La question, c'est plutôt qu'est-ce que ça raconte de ce qu'on vit, qu'est-ce que ça raconte de nos sociétés, qu'est-ce que ça raconte de notre rapport au corps, au climat, etc. Voilà, donc ça, c'est... Franchement, je m'intéresse beaucoup à ces sujets du rapport de l'architecture avec son climat, pour le dire largement, et toujours dans cette logique de rapport au corps. Et donc, on est en train de construire un bâtiment à côté de Paris, à Ormesson, un bâtiment de logement social, on a une double façade en pierre massive, comme le faisait Bouillon, qui est plein sud, et dont la pierre n'est pas isolée. Voilà. Donc, qui génère un peu de déperdition et un peu de froid l'hiver, concrètement. Mais qui va aussi évidemment fabriquer beaucoup d'inertie, de la fraîcheur l'été, et du déphasage l'hiver. Et ça, c'est des questions de rapport au corps qui sont au-delà de la question du calcul, de savoir si on perd 1 ou 2 kWh ou qu'on gagne, peu importe. Bon, évidemment qu'on respecte la règle, la RT et tout, mais voilà, on travaille sur ces sujets-là pour... Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, en particulier dans l'architecture de logement, on commence à se couper finalement. C'est-à-dire en fabriquant du confort, on a fabriqué de l'uniformisation en fait, et donc on s'est tous mis à avoir envie de vivre exactement de la même manière à Toulouse, à Marseille, à Paris, pour dire que la France quoi. Et c'est une pierre dans le monde puisque bien qu'il y a plein d'endroits où on veut vivre comme un Occident. Et voilà. Et donc c'est cette notion finalement de confort, mais aussi d'inconfort en réalité. Sur lequel on travaille dans l'utilisation des matières naturelles, la terre, la pierre, le bois. Voilà.
Merci, ça remène en même temps sur la dernière question qui est parler du futur. Quand on pense au futur, on pense forcément à la planète, à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions? Je pense que tu as commencé à l'évoquer.
Oui, effectivement. On peut rajouter la chose suivante. Hein. C'est vrai que aujourd'hui, finalement, ce qui change... En fait, en matière environnementale, c'est la question de ce qu'on pourrait appeler au sens large le patrimoine, hein, c'est-à-dire que d'un coup, c'est une vraie influence dans nos métiers et je pense qu'on n'a rien vu. C'est-à-dire, je pense que concrètement, ça c'est une chose que je dis depuis quelques années déjà, mais on verra. Je pense que je ferai partie de ceux qui verront peut-être à la fin, mais ils verront le moment où on n'aura plus le droit de construire des bâtiments neufs. On ne pourra plus consommer de terres naturelles, on ne pourra plus dépenser autant de carbone. Donc, on fera des réhabilitations, des extensions, quelques démolitions, reconstructions de temps en temps. Et ce que ça change en termes de patrimoine, c'est que ça déplace complètement la valeur du patrimoine. Enfin, on est un pays où le patrimoine a beaucoup d'importance, où on a une loi qui protège et tout ça, mais qui ont plutôt tendance à protéger ce qui est rare et vieux. Et oui. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir, on voit déjà d'ailleurs, qu'il y a un déplacement vers moins ce qui est rare, et ce qui est moins rare, ce qui est moins vieux. Parce que tout simplement, la valeur patrimoniale, en fait, elle est une valeur économique, c'est-à-dire, j'ai un truc, pourquoi le démolir? Et puis, la valeur environnementale, c'est-à-dire, j'ai un truc, j'ai consommé du carbone à une certaine époque, je ne peux pas en reconsommer pour le plaisir. Et voilà. Et du coup, ça déplace complètement notre rapport au patrimoine et redonne finalement de la valeur à des objets qui semblaient ne pas en avoir. Et je parle pas des très beaux bâtiments modernes du début du XXe siècle. Hein. Je parle vraiment voilà des boîtes commerciales pourries, des dessins très très moches des années 80, des structures en métal hyper colorées en jaune. Enfin voilà, tous ces trucs là qui vont revenir au centre du débat confinement.
Et même ces logements ou habitations qu'on ne trouvait pas belles, et on sera obligé de composer avec en les réparant, comme tu le disais tout à l'heure. Mais moi, je pense que si la population augmente quand même, on va être quand même obligé de continuer de construire. Parce que on n'aura pas assez de, si on continue de, la population continue de grandir.
Alors bon, c'est sûr que si là, le débat, est-ce que la population va continuer de grandir, ça c'est
pas. Il y a des chances peut-être.
Dans tous les, en tout cas dans tous les, essais sur l'avenir environnemental, la question de la démographie se pose.
Ouais.
Entre d'avis sur ce sujet.
On va mettre de ça.
Voilà. Mais on peut dire qu'en tout cas à ce stade, en France, il existe un gisement de reconstruction de la ville sur la ville. Moi qui connais bien les territoires périurbains et ruraux, voilà. Enfin, moi je vis dans un village. J'ai vécu dans un village. Mes parents vivent encore dans un village. Ou voilà, dans le centre ancien, une maison sur deux, il habitait, une maison parfois magnifique, avec des hyper bien construites, en pierre, en bon état, tout ce qu'on veut. Voilà, avec des jardins et qui pourtant sont pas habités. Donc voilà, effectivement, je pense qu'on aura la loi ZAN, de toute façon, déjà commencer par limiter très fortement les possibilités d'extension. C'était déjà un peu le cas depuis le Grenelle de l'environnement, mais pas encore très opérant. Mais voilà, globalement, on se pose ces questions-là depuis des années. On travaille pas mal de projets comme ça, où on fait pour densifier dans des tissus déjà existants. On voit qu'il y a un gisement considérable. Effectivement, on aura toujours, on va avoir encore pendant quelques années des extensions urbaines, peut-être des quartiers neufs. Voilà. Mais c'est quand même des sujets qui vont s'arrêter.
Et on va en proportion, ça risque d'être moindre que ce qu'on a pu connaître.
Et on le voit très concrètement. Honnêtement, sans le vouloir, c'est les sujets qui se présentent à nous sont de plus en plus ceux-là. Voilà. Pour donner un autre exemple de ça, mes exercices de projet à l'école d'architecture sont des exercices qui sont toujours des exercices où ils laissent pas mal de liberté aux étudiants de choisir leur cible, leur sujet, leur programme et tout ça sur un territoire donné. Et donc, pendant longtemps, il y avait 100% des étudiants qui faisaient bâtiment. Il y a quelques années, on a vu la proportion s'inverser jusqu'à ce qu'aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, en fait, il y a en général un ou deux bâtiments neufs, un groupe d'étudiants de 20 ou 30 étudiants. C'est-à-dire tous les autres font des habitations, des extensions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en fait flagrant.
Oui, qui est intégré maintenant dans les mentalités
des plus jeunes. Ouais. Exactement.
Bon, merci. Et oui, c'est déjà la fin. C'était passionnant. J'ai encore appris plein de choses. Merci Boris. Merci beaucoup pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que les auditeurs ont passé aussi un beau moment en nous écoutant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le monde captivant de l'architecture dans la tête d'Alarchi. Merci Boris.
Merci, salut.
Et à bientôt. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un architecte. D'ici là, restez inspirés.